Docteur Dufour, bonjour.
Bonjour.
Dans ce livre, Le tumulte amoureux, vous abordez les effets des blessures de l'abandon qui auraient un grand impact sur le couple, sur la santé d'un couple. Des blessures qui souvent se créent à l'enfance, qui sont inexprimées et qui nous rendent malheureux finalement. Je vous cite, vous avez déjà dit que l'amour, c'était la chose la plus simple du monde, mais que souvent, on rendait ça compliqué. Est-ce que ce sont les blessures d'abandon qui créent ça?
Entre autres, ce n'est pas la seule blessure qui crée ça, mais c'est une blessure qui est importante et qui est justement une blessure due à un manque d'amour, dans le sens que l'enfant ou même le fœtus à l'intérieur du ventre de sa mère, ne se sent pas accueilli ou ne se sent pas désiré réellement et se sent rejeté. Alors, ce n'est pas forcément un abandon physique qui va être à la source de cette blessure. C'est très souvent un abandon affectif plutôt. Et ce qui est important de souligner, c'est que ce n'est pas la réalité de l'adulte qui est importante, c'est finalement la réalité de l'enfant ou du bébé qui, lui, se sent mis de côté, rejeté. Et ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut être simplement un petit frère qui naît, ça c'est relativement courant, mais ça peut être aussi tout simplement un autre enfant dans la fratrie qui prend beaucoup de place parce qu'il est plus turbulent ou bien il est malade éventuellement. Mais ça peut être aussi simplement un ressenti de l'enfant selon lequel il se sent moins bien aimé qu'il ne désirerait. Et ça peut dégénérer en cette blessure dont on parle.
J'ai l'impression que plusieurs d'entre nous peuvent être touchés par une blessure d'abandon.
C'est très courant, en effet, et lors de mes 35 années de consultation, c'est souvent quelque chose qui revient à la surface, mais pas de façon immédiate, parce que c'est petit à petit, moi je dis toujours en pelant l'oignon, qu'on arrive finalement à cette blessure qui est souvent inconsciente chez la personne et qui n'est pas forcément évidente.
Oui, et souvent, et vous le décrivez bien dans le livre, hein, parce que le livre se base sur justement des consultations, vos patients, des figures de cas bien, bien précises. Ces émotions-là, oui, ils ont un impact sur la santé des gens que vous rencontrez, là.
Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant qui ne se sent pas désiré ou qui se sent un peu mis de côté, qu'est-ce qu'il ressent? Eh bien, il ressent des émotions. Et notamment une émotion qui est l'émotion mal aimée par beaucoup de gens, c'est la colère. Parce qu'en fait, on confond beaucoup la colère avec la rage. La rage, c'est quelqu'un qui garde quelque chose en lui, qui le contient, puis qui au bout d'un moment va exploser, puis du même coup, eh bien, c'est évidemment totalement destructeur et absolument pas à recommander. Par contre, une bonne et vraie colère, ce qui est une émotion tout à fait naturelle, que tout enfant a, eh bien, si on la garde en soi, qu'on soit à l'âge adolescent, adulte ou même enfant, eh bien, qu'est-ce qui se crée à ce moment-là? Il se crée une tension. Et une tension, on sait, la médecine l'a prouvé, que lorsqu'elle reste un moment où elle perdure, eh bien, on va avoir notamment une chose qui est importante qui va se passer, c'est que nos défenses immunitaires, qui nous protègent normalement contre les virus, les bactéries ou la création de cellules anormales, eh bien, ces défenses vont être diminuées, amoindries, et du même coup, on peut tomber malade et développer ne serait-ce qu'une fatigue, des maux divers comme des maux de tête et d'être plus irritable, mais petit à petit, ça peut dégénérer en des maladies plus importantes.
Quels sont les indices que quelqu'un vit ou a vécu une blessure d'abandon? Est-ce que c'est justement la présence de cette maladie ou une série de ruptures d'échecs amoureux?
Alors, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être en effet une maladie et puis on remonte petit à petit à cette blessure, mais c'est aussi et souvent des schémas un peu répétitifs que les gens présentent, qui peuvent aller de j'ai peur de me retrouver seul dans ma vie, donc je vais tout faire pour m'accrocher à l'autre, ou bien alors au contraire, vu que j'ai déjà vécu des séparations multiples, eh bien, je vais tout faire pour ne pas m'accrocher à quelqu'un et être aimé, finalement.
Oui, de rejeter...
Et donc, je vais rejeter l'autre.
L'intimité.
Et le repousser.
Il y a des mécanismes aussi que l'on crée autour de soi pour se défendre de ces blessures d'abandon.
Oui, alors les deux grands mécanismes, c'est celui qui, ou celle, qui va tout faire pour être aimée, parce que n'oublions pas qu'une personne qui souffre de cette blessure de façon inconsciente, elle porte en elle quelque chose qui est important, elle est persuadée qu'elle ne peut pas être aimée. Vu qu'on ne l'a pas aimée dans sa petite enfance, elle vit avec cette certitude qu'on ne peut pas l'aimer. Donc, soit elle va tout faire pour qu'on l'aime, quitte à complètement s'oublier elle-même, elle va devenir complètement dépendante de la personne en face en essayant d'exécuter tous ses désirs et même les devancer. Évidemment, souvent, ça va se terminer par l'abandon parce que la personne ne se respectant pas, elle n'est pas respectée par l'autre qui est en face. Et évidemment, arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire l'abandon, qui est la pire des choses qu'évidemment l'abandon craint. Ou, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, l'autre mécanisme, c'est de se défendre et d'essayer de ne pas rentrer en relation tout en ayant cette grande crainte, finalement, à l'intérieur. C'est ce qui paraît paradoxal à l'observateur, en même temps de vouloir être aimé. Donc, il y a toujours ce désir d'être aimé, mais cette crainte de souffrir en aimant.
Vous qui êtes médecin depuis plusieurs années, ce n'est pas justement l'objectif de tous les êtres humains, être aimé, aimé?
Alors oui, c'est peut-être là où le bât blesse, dans le sens qu'on a toujours l'impression que l'autre va essayer de nous aimer mieux que peut-être on s'aime soi-même.
Ouais.
Et c'est là où il y a l'illusion première, c'est qu'on nous apprend peut-être beaucoup trop à aimer les autres, et par contre, pendant ce temps-là, on a tendance à s'oublier. Et je crois que ce que finalement vient dire le corps, moi je dis toujours que le corps c'est le meilleur ami que l'on ait, lui vient nous dire, écoute, commence peut-être à t'aimer toi-même, à te respecter toi, à t'apporter finalement cette attention que tu mérites. Et puis, par là même, tu vas rayonner, du même coup, tu vas rayonner auprès des autres.
Oui, parce que vous en parlez beaucoup, que ces blessures d'abandon semblent venir d'un manque d'amour de soi-même. Mais c'est difficile, parfois, de s'aimer soi-même. Qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce qu'on peut s'aider d'une certaine façon?
Alors, c'est une question qu'on me pose souvent en me disant, mais comment est-ce que je peux faire pour m'aimer? Ben, je crois déjà, la première des choses, c'est d'essayer d'être dans le moment présent. Ça paraît un peu ridicule peut-être de dire ça, mais c'est en fait très difficile de vivre le moment présent, donc dans l'ici et maintenant. Et pour ça, on a des moyens très simples qui sont par exemple d'essayer de porter son attention à son corps physique, porter son attention à son corps sensoriel. Ça veut dire quoi? Moi, j'aime bien les orteils, bouger les orteils dans les chaussures. On peut le faire, qu'on soit en interview comme maintenant ou bien à d'autres moments dans la vie. Et personne n'est en train de nous regarder les orteils. Et donc, ça permet de simplement s'ancrer un peu plus dans le moment présent ou bien de porter son attention à une odeur ou porter son attention au goût de la salive dans sa bouche. C'est des petites choses qu'on peut faire de façon répétitive.
Plusieurs fois par jour.
Hein? Oh oui, des centaines de fois par jour. On me dira, mais j'ai pas le temps. Si, on a le temps, et c'est en prenant ce temps qui en fait utilise zéro énergie et pour ainsi dire zéro temps, eh bien qu'on arrive à être beaucoup plus présent dans le moment présent, donc concentré, une meilleure mémoire qui nous permet d'être beaucoup plus présent à nous-mêmes. Maintenant, bien entendu, quand on est dans le moment présent, le gros problème, c'est qu'on va se retrouver nez à nez avec nos émotions.
Oui.
Et une autre façon de s'aimer, bah, c'est peut-être de se dire, bah, j'ai envie de rire, je ris, ça je crois que tout le monde y arrive à peu près facilement. Ou bien je suis triste, bah, j'ai le droit de pleurer, pas devant tout le monde, bien entendu, mais on peut le faire tout seul dans son coin pour se faire du bien de nouveau et donc s'apporter un peu d'amour. Et puis alors, quand on est en colère, on peut faire la même chose à la condition, je dis bien, de ne pas la déverser sur l'autre ou sur les autres, mais de pouvoir, par exemple, hurler dans son pelochon, sur son lit, ou
dans la voiture,
physique, ou dans la voiture, à condition qu'elle ne soit pas décapotable. Et sous l'eau, et aussi sous l'eau avant, il faut avoir bien expiré au-delà de l'eau et après crier dans l'eau.
Parce que, et ça vous l'avez déjà dit, je vous cite, « Ressentons nos émotions et nous serons en santé ».
Oui, il y a une espèce de chape de plomb qui est tombée dans notre société sur les émotions. Il y a beaucoup de gens qui parlent des mauvaises émotions et des émotions négatives, incluant notamment la colère. Non, une colère qui est vécue pour soi-même, pour se faire du bien, c'est au contraire quelque chose qui est excessivement positif. C'est de l'énergie qui circule dans notre corps, et à partir du moment où cette énergie circule, mais on est en bonne santé.
Et d'ailleurs, pour des exercices afin de mieux vivre le moment présent, il y a une panoplie de recommandations à la fin de votre livre Le tumulte amoureux. Docteur Daniel Dufour, je veux revenir sur ce concept, cette méthode Hodge, dont vous êtes le créateur depuis 1997, qui est, quand on l'épelle, là, les lettres à l'inverse de l'ego. En quoi, bon, premièrement, c'est quoi l'ego? Vous en parlez beaucoup dans ce livre-là aussi.
Oui, alors l'ego, il y a d'autres mots qu'on peut utiliser, le mental. Vous avez une très belle expression ici au Québec, vous appelez ça le hamster.
Oui, oui, oui.
Et je trouve...
Vous appelez ça la bicyclette, le vélo.
Exactement, le petit vélo en Europe. Je dirais, j'ai importé le mot hamster en Europe maintenant. C'est une très belle image. On voit bien l'animal qui tourne dans sa roue et qui fait beaucoup de bruit, mais qui ne sert pas à grand-chose. Ouais. Alors, ce mental ou cet ego, on le définit, et ça, c'est une définition que je demande aux gens d'accepter, comme étant celui qui nous coupe du moment présent. À partir du moment où il nous coupe du moment présent, il nous met dans le futur, donc dans les peurs, les angoisses, les appréhensions, le manque de confiance en soi, mais il nous met aussi dans le passé avec les remords, les regrets, les culpabilités. Ça, c'est sa première caractéristique. Donc, le premier volet de la méthode Hodge, à l'envers de l'ego, ça va être d'éteindre son mental, c'est-à-dire ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire porter son attention à son corps physique et son corps sensoriel afin de revenir dans le moment présent. Ça, c'est la première chose. Deuxième caractéristique de l'ego ou du mental, c'est de nous couper de nos émotions, que ce soit les émotions de joie, de tristesse ou de colère. Donc, deuxième volet de la méthode Hodge ou de l'approche Hodge, c'est de reconnaître, de ressentir et de d'exprimer ces émotions, de les vivre en fait. Puis troisième caractéristique de l'ego, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'est la principale troisième caractéristique, c'est de nous couper de notre savoir inné, de notre intuition, de notre noyau fondamental, cette partie qu'on a en nous qui est bourrée de qualités et qui fait de nous, des géants plutôt que des lilliputiens.
Ouais.
Et le mental, lui, va nous faire dire « mais non, t'es nul, t'es zéro », etc. Alors, troisième volet de la méthode Hodge, c'est de retrouver son savoir inné, son intuition, sa créativité, son noyau fondamental.
Dont on s'éloigne parce que le mental ou le hamster prend trop de place.
Exactement. Et ce mental, il prend énormément de place dans notre vie, malheureusement.
Bien sûr, on peut lire votre livre et se reconnaître en tant qu'amoureux. Parce que, je le disais, il y a plusieurs exemples, plusieurs types d'amoureux aussi. Parfois aussi, on pourrait reconnaître un proche. On pourrait reconnaître notre conjoint, notre conjointe, si on a l'impression que cette personne que l'on aime est prise dans ce piège-là. Qu'est-ce que l'on peut faire?
Alors, la première des choses, c'est déjà de savoir qu'on peut guérir de cela. Je crois que c'est très important. Autrement, jamais j'aurais écrit ce livre ou ces livres, parce que c'est bien d'exposer ce qui ne va pas, mais c'est encore mieux de pouvoir savoir qu'on peut guérir et qu'on a des instruments relativement simples qui peuvent nous aider à guérir, sachant néanmoins que cette guérison est lente. Dans le sens qu'il faut comprendre qu'un enfant qui s'est senti peu aimé, il a mis en place ce mental dont on parlait tout à l'heure, qui est une espèce de défense, d'une survie. Et puis, d'arriver à s'en passer, ça va être évidemment pas simple. L'autre chose, c'est peut-être de dire à la personne en face, bien, tu sais, peut-être que tu es dans la crainte que je t'aime, ou tu es dans la crainte de recevoir de l'amour. Est-ce que tu ne crois pas que tu pourrais, tu es digne finalement de recevoir? Alors, si on le dit comme ça, c'est pas pour ça que l'autre va se retrouver mieux. Au contraire, généralement, il va dire « mais oui, je sais que je suis digne » et puis il va passer d'un revers de main et passer à autre chose. Mais c'est à la personne elle-même, après, de pouvoir se dire « qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'être plus calme, plus serein dans ma relation et de vivre peut-être mieux ma relation que je ne le fais jusqu'à présent ?»
Je rebondis sur « entre ses mains ». Vous parlez beaucoup de cette responsabilité-là que l'on a personnellement, de prendre en main notre guérison. Que parfois, on remet ça entre les mains des médecins, des psychologues, mais c'est à nous de faire ces pas-là.
Un thérapeute, un médecin, un psychologue peut accompagner quelqu'un, il ne peut en aucun cas le guérir. La seule personne qui peut guérir, c'est nous-mêmes, pour nous-mêmes, en se donnant peut-être cet amour dont on parlait tout à l'heure, qui est important, avec des moyens très simples, Quand je dis simples, ils sont simples à énumérer, ils sont beaucoup plus difficiles à mettre en pratique.
Ah oui, bah oui.
Parce que éteindre son mental, comme on le disait, on le voyait tout à l'heure, c'est-à-dire bouger ses orteils, par exemple, dans ses chaussures, ça paraît très simple, mais le mental, lui, il est très fort, il est excessivement présent. On le chasse par la fenêtre, il revient par la porte, et il est très, très solide et très solidement attaché à nous. Alors, il va falloir petit à petit, en prenant son temps, en prenant de la patience et en se donnant cette attention dont on manque un peu quand on l'attend de l'autre, eh bien, essayer de petit à petit découvrir que bah, quand on est dans le moment présent, on est déjà beaucoup plus détendu, dans le sens qu'on n'a plus les tensions liées aux peurs, aux angoisses, aux appréhensions, notamment de se retrouver seul ou d'être abandonné par quelqu'un à nouveau. Et en faisant ça, bah, c'est comme ça qu'on avance petit à petit vers une guérison.
Oui, et de reconnaître, j'ai l'impression que ça débute là, de reconnaître, d'avoir cette humilité-là, qu'on est dans des schémas qui nous nuisent, qui nuisent à notre santé, à notre vie amoureuse et peut-être même à notre partenaire de vie.
Absolument, c'est de se regarder peut-être un peu de façon objective, même si l'objectivité, on peut penser ce qu'on veut, mais voir qu'il y a des choses qui vont nous créer des tensions en nous et que quand il y a une tension, c'est que le mental est présent. Quand il y a une détente, à ce moment-là, c'est que le mental a disparu, ne serait-ce que pour quelques secondes ou quelques minutes, c'est toujours ça de gagner. Et c'est toujours ça qu'on a pu s'apporter à soi-même.
En terminant, docteur Dufour, et je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression, et vous disiez que c'était fréquent, les blessures d'abandon, on est plusieurs à en avoir vécu. Est-ce que deux personnes qui ont vécu l'abandon, vous parlez de personnes abandonniques, peuvent s'aimer et aspirer à une vie conjugale heureuse?
Oui. Et
je sens l'envie. Oui, il y a de l'hésitation.
Oui, dans le sens qu'en effet, il y a la possibilité d'être dans un certain déséquilibre qui s'équilibre. Je ne sais pas si je suis très clair en disant ça, mais évidemment, à un moment donné, il peut y avoir une rupture. Mais se dire à ce moment-là que ça n'est que partie remise et que si on fait ce travail, c'est-à-dire si on fait cette approche de soi-même et qu'on s'apporte un peu cet amour, eh bien petit à petit, on peut guérir de cela et qu'un équilibre nouveau, bien entendu nouveau, peut apparaître dans le couple.
Oui, d'avoir suffisamment d'amour envers soi-même pour se donner le temps aussi d'aller vers cette guérison.
Oui, exactement.
Docteur Daniel Dufour, vous êtes l'auteur de plusieurs publications, dont Le tumulte amoureux, qui est publié aux éditions de l'Homme. Pour en savoir davantage, www.oge.biz. Merci beaucoup. Un très bon et beau séjour au Québec.
Merci à vous.
Au plaisir.